Anatole France, la dame de Vérone. Ceci fut trouvé par le révérend père Ladone Doni dans les archives du couvent de Santa Croce à Vérone. Madame Eletta de Vérone était si merveilleusement belle et bien faite que les clercs de la ville, qui avaient connaissance de l'histoire et de la fable, appelaient madame sa mère des noms de Latone, de Léda et de Sémélé, donnant ainsi à entendre qu'ils croyaient que son fruit avait été formé en elle par un dieu Jupiter plutôt que par quelque homme mortel, comme étaient le mari et les amants de la dite dame. Mais les plus sages, notamment Fra Battista, qui fut avant moi gardien du couvent de Santa Croce, estimait qu'une telle beauté de chair relevait de l'opération du diable, qui est artiste, au sens où l'entendait Néron, empereur des Romains, quand il disait en mourant « Quel artiste périt !» Et l'on ne peut douter que l'ennemi de Dieu, Satan, qui est habile à travailler les métaux, n'excelle aussi dans l'œuvre de chair. Moi, qui vous parle, ayant une assez grande connaissance du monde, j'ai vu maintes fois des cloches et des images d'hommes fabriquées par l'ennemi du genre humain. L'artifice en est admirable. J'eus pareillement connaissance d'enfants que le diable fit à des femmes, mais sur ce sujet ma langue est liée par le secret de la confession. Je me bornerai donc à dire qu'on semait d'étranges discours sur la naissance de madame Eletta. Je vis cette dame pour la première fois sur la place de Vérone, le saint vendredi de l'an 1320, alors qu'elle venait d'accomplir sa 14e année. Je l'ai revue depuis, sur les promenades et dans les églises où fréquentent les dames. Elle était semblable à une peinture faite par un très bon ouvrier. Elle avait les cheveux d'or crépelés, le front blanc, les yeux d'une couleur qui ne se voit qu'en la pierre précieuse nommée aigmarine, les joues roses, le nez droit et fin. Sa bouche imitait l'arc de l'amour et blessait en souriant, et le menton était aussi riant que la bouche. Tout le corps de madame Eletta était fait à souhait pour le plaisir des amants. Ses seins n'étaient point très gros, mais ils gonflaient la chemisette de deux pleines et bonnes douces rondeurs jumelles. Tant à cause de mon caractère sacré que parce que je ne l'ai vue que voilée et couverte de ses habits de ville, je ne vous décrirai pas les autres parties de son corps qui tout annonçaient leur excellence à travers les tissus qui les couvraient. Je vous dirai simplement que, se trouvant à sa place accoutumée dans l'église de San Zenone, elle ne pouvait faire un mouvement, soit pour se lever, soit pour s'agenouiller, ou se prosterner le front contre la dalle, comme il se doit faire au moment de l'élévation du Sacré-Corps de Jésus-Christ, sans aussitôt inspirer aux hommes qui la voyaient un ardent désir de la tenir serrée contre eux. Or, madame Eletta vint à épouser vers l'âge de 15 ans Messer Antonio Torlotta, avocat qui était très savant homme, de bonne renommée et riche, mais déjà en son vieil âge et si épais et difforme, qu'en le voyant portant ses écritures en un grand sac de cuir, on ne savait quel sac traînait l'autre. C'était pitié de penser que par l'effet du sacrement de mariage qui est institué par les hommes pour leur gloire et salut éternel, la plus belle dame de Vérone couchait avec un si vieil homme infirme et ruineux. Et les sages virent avec plus de douleur que de surprise que, profitant de la liberté que lui laissait son mari, occupé toute la nuit à résoudre des difficultés touchant le juste et l'injuste, la jeune femme de Messer Antonio Torlotta recevait dans son lit les plus beaux cavaliers de la ville. Mais le plaisir qu'elle y prenait venait d'elle, et non point d'eux. Elle s'aimait et ne les aimait pas. Elle n'eut jamais de goût que pour sa propre chair. Elle était à soi-même son désir, son envie et ses blandisses. Par quoi, il me semble que le péché de chair était excessivement aggravé en elle. Car, bien que ce péché nous sépare de Dieu, ce qui en fait assez concevoir la gravité, il est vrai de dire que les pécheurs charnels sont regardés par le souverain juge, en ce monde et dans l'autre, avec moins de colère que les avares, les traîtres, les homicides, et que les méchants qui ont trafiqué des choses saintes, en tant que les désirs mauvais que forment les hommes sensuels, étant d'autrui, non d'eux-mêmes, laissent paraître les restes avilis de l'amour véritable et de la charité. Mais rien de tel ne se montrait aux adultères de Madame Eletta, qui, dans toutes ses amours, n'aimait qu'elle seule. Et en cela, elle était plus séparée de Dieu que tant d'autres femmes, qui ne résistèrent point à leurs désirs, mais ses désirs étaient d'autrui, et ceux de Madame Eletta étaient d'elle. Ce que j'en dis est pour mieux faire entendre la suite du récit. À l'âge de 20 ans, elle fut malade et se sentit mourir. Alors elle pleura son beau corps avec une pitié profonde. Elle se fit revêtir par ses femmes de ses plus riches atours, se regarda dans un miroir, se caressa des deux mains la poitrine et les hanches, afin de jouir une dernière fois de ses propres charmes. Et, ne consentant point à ce que ce corps adoré d'elle fût mangé des vers dans la terre humide, elle dit en expirant, avec un grand soupir de foi et d'espérance, « Satan, bien-aimé Satan, prends mon âme et mon corps, Satan, mon doux Satan, écoute ma prière, prends mon corps avec mon âme. » Elle fut portée à San Zenone, selon la coutume, à visage découvert. Et de mémoire d'homme, l'on n'avait point vu de morte si belle. Pendant que les prêtres chantaient autour d'elle l'office des trépassés, elle semblait pâmée au bras d'un invisible amant. Après la cérémonie, le cercueil de Madame Eletta, soigneusement scellé, fut mis en terre sainte parmi les tombeaux qui entouraient l'église de San Zenone, et dont quelques-uns sont des sarcophages antiques. Mais le lendemain matin, la terre qu'on avait jetée sur la morte avait été enlevée, et l'on vit le cercueil ouvert et vide.